le visage buriné par une vie de labeur éclaboussée de soleil, trahit un vécu fait de souffrance et de sacrifice. Tout de noir vêtue, elle porte en elle le souvenir de souffrance, de deuil, mais aussi d'aventures colorées sur les routes de France, en compagnie des marchands ambulants et des travailleurs journaliers. Le port droit de sa tête au cou dégagé révèle une nuque encore musclée par le port de charges lourdes sur le crâne. Cette femme racée, élancée, est bien le parangon de ces montagnoles aux voiles de lingerie, vêtues de jupes noires amples et froncées et de bas de grosse laine frangée au cou du pied. Cette vieille photo jaunie trouvée au fond de la malle d'un grenier a réveillé la curiosité et suscité une enquête de plusieurs années. Enquête effectuée auprès des anciens, de ceux qui l'ont connue et écoutée, de ceux qui ont entendu parler d'elle. Ce visage, cette attitude ont suscité l'intérêt de Bernard Richard, résident à Sesco, le poussant à le reproduire au fusain par la grâce de ses mains expertes. Grâce à Bernard Richard, qui hélas nous a quittés, elle connaîtra une nouvelle vie. Répondant à son invitation, j'ai raconté sa vie dans son magnifique ouvrage « Des hommes et des femmes en Couserans » aux éditions Claire Sud, donc, Bernard Richard. Nous évoquerons ce soir l'histoire de cette couseranaise obscure, inconnue, mais dont la vie est si révélatrice. Née le 28 mai 1856, Jeanne Baptiste Luc Jugier a vécu malgré elle les nombreuses mutations qu'a connues la civilisation paysanne du mi-temps du 19e siècle aux déchirures cruelles de l'occupation allemande. Fille de moissonneur saisonnier, elle vit le jour à Landorte, près de Saint-Gaudens, alors que sa mère, résidant à Saint-Enac en Couserans, louait ses bras dans une exploitation agricole. Il faut dire que l'économie du Couserans ne permettant pas d'engager les plus démunis, ces derniers fuyaient leur masure pour se livrer à la mendicité et provoquer leur service dans les villes ou les plaines de Gascogne ou du Languedoc. Partir était parfois la seule solution. Dès sa plus petite enfance, son existence fut rythmée par le départ des proches et par les récits évoquant les exclus, les trimardeurs, parcourant inlassablement les campagnes et les villages, alimentant peur et fantasmes. Bien sûr, elle sera initiée aux côtés de sa mère aux tâches qui seront les siennes plus tard. Se livrer aux différents travaux, seconder les hommes au moment des récoltes, la terre exigeait des bras, et l'enfant était considéré comme un adulte en réduction, dont on se souciait peu de protéger l'innocence et la personnalité. De plus, les parents les plus souvent harassés par des journées de travail intensif n'étaient pas disponibles pour leur progéniture. Les années qui suivirent la guerre de 1870 contre la Prusse et la chute de l'Empire de Napoléon III furent marquées par une grande crise économique qui frappa de plein fouet le monde des campagnes. Ce fut pour elle des années de disette en proie à l'incertitude des lendemains. Dans ces contrées peuplées régnait une grande misère physiologique. Les unions consanguines provoquaient des malformations. De nombreux cas de crétinisme existaient par ailleurs. On peut noter aussi l'importance des goitreux. Vivre dans une telle promiscuité provoquait bien des angoisses. Face à cette situation, de nombreuses petites filles issues comme elles des milieux rustiques montagnards vont en effet s'embaucher à cette époque comme servantes en ville. Elles s'y marient très tard ou pas du tout, ou encore elles meurent précocement de phtisie ou de misère. La ville soustrait ainsi aux campagnes des milliers de ventres fertiles. Elle condamne ceux-ci à milieu urbain à ne pas enfanter, ou bien à engendrer des bébés condamnés à mort. Cette dernière clause s'expliquant par la très forte mortalité infantile qui règne spécifiquement dans les milieux citadins. La ville fonctionne ainsi comme une soupape de sûreté qui assure, dans les conditions d'un équilibre tragique, la non-croissance de la démocratie campagnarde. Choisie ou subie, la solitude des femmes était toujours génératrice de situations difficiles. Michelet n'hésitait pas à dire, je cite, « La femme meurt si elle n'a ni foyer ni protection. » Dévergondée, vivant de ses charmes ou laissée pour compte si elle n'en a pas, la femme seule suscite méfiance, réprobation ou moquerie. Il faudra attendre le XXe siècle, Simone de Beauvoir par exemple, pour que la femme ait un statut lui permettant de rester célibataire. Pourtant, des femmes seules, il y en avait. Au recensement de 1851, on comptait 46% au-dessus de 50 ans, 34% de veuves et 12% de célibataires. Le travail de ces femmes solitaires était la plupart du temps considéré comme un appoint au budget familial et les métiers des femmes étaient statutairement inférieurs. On évacuera toutes les professions gravitant autour de la couture. Selon les ethnologues, la seule arme de ces jeunes malheureuses était la plupart du temps, malheureusement pour elles, la séduction. Une liaison pouvait fournir un complément de ressources. Avoir un protecteur s'avérait parfois indispensable pour être embauché dans les grands magasins. La rémunération était si dérisoire que l'employeur était persuadé que son employé était incapable de joindre les deux bouts avec son seul salaire. Par bonheur pour Jeanne Baptistine Luc Judge, elle épouse son voisin de Saint-Onac, Joseph Allen Peyrach. Ce dernier, marqué par les horreurs de la guerre et la captivité en Allemagne, faisait partie de ces colporteurs merciers qui parcouraient la France avec leur caisse à curiosité remplie d'articles de piété et autres fournitures achetées à créance chez les boutiquiers spécialisés à Sueix et à Saint-Girons. De leur union naquit Baptistine. Mais comment élever son enfant quand il faut à tout prix partir pour améliorer l'ordinaire? Le 14 novembre 1885, le nourrisson fut placé chez la femme d'un maçon de la Soumère pour être élevé, je cite, « au sein, contre un salaire de 19 francs par mois, savons compris ». La mise en nourrice était une pratique fort répandue. Les nourrices benmalaises connurent à cette époque leur heure de gloire et leur postérité. Partir sur les routes, bien sûr, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous interpelle. Mais à l'époque, circuler sur les routes de France était particulièrement dangereux. De nombreux vagabonds où se mêlaient maraudeurs et bandits pullulaient, mettant en péril vie et besace. Des branches, des pierres barraient la route. Des hommes armés et masqués se faisaient remettre sous la menace des objets précieux. Imaginons un instant ces bouges où le nombre de lits était inférieur au nombre de voyageurs. Imaginons ces chambres à plusieurs lits où il fallait partager la couche avec un inconnu malodorant, égoïste, affligé de ronflements. Le sol des auberges maculé de crachats et les effluves délétères dus à la promiscuité rendaient les conditions du voyage encore plus dures. De plus, le voyageur était guetté par la maladie et la mort. Cela allait du simple coup de froid aux problèmes articulaires dus aux mauvaises suspensions de voitures et à l'état des routes. Bien sûr, il ne faut pas oublier les troubles digestifs et les maladies épidémiques contractées dans des lieux où l'on faisait halte et qui étaient particulièrement insalubres. De plus, les ouvriers itinérants, les trimardeurs et les marchands ambulants aux conditions de vie parfois misérables étaient le plus souvent associés aux vagabonds en but aux tracasseries policières. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, célibataires, solitaires, vagabonds étaient des marginaux vivant à la périphérie d'une de nos sociétés dont la famille était le centre. Toujours en position d'accusé ou de suspect, ils vivaient sur la défensive. Les migrants transportés de la campagne à la ville offraient un terrain idéal à la tuberculose, souvent dénoncée comme le fléau des célibataires. Cette peur de la maladie prolongeait d'ailleurs le célibat, tant était grande la peur de la contagion matrimoniale. En ce début du XXIe siècle, caractérisé par l'importance des progrès des moyens de communication devenus planétaires, nous pouvons à juste titre être étonnés devant le courage de ceux qui partaient alors en voyage, affrontant par nécessité une route parsemée d'embûches. Ils étaient plus de 20 000 marchands itinérants à quitter chaque année leur foyer, offrir aux paysans des contrées traversées, de la quincaillerie, de la mercerie, des livres, des chapelets. Pour ces femmes accompagnantes, il fallait être assez expérimenté pour prévoir et résister aux dangers survivants et surgissantes à l'improviste. Mais il y avait aussi des retrouvailles avec des concitoyens lors d'une traversée de ville, des spectacles de baladins et d'animaux domestiques aux couleurs chatoyantes. Parfois, au hasard d'une pause, quelques notes de musique du pays retentissant dans une venelle laissaient couler une larme de nostalgie. Le village natal était si loin. Le printemps venu, son mari Joseph du Peyratch partait pour les plaines de la Seaune d'Urgel en Catalogne pour les moissons. Il fallait assumer les tâches alimentaires tout en étant journalière au château de Campagna. Lorsque Joseph mourut par empoisonnement, elle décida de se consacrer à la famille de sa fille afin d'assurer la survie de cette famille marquée par la misère. À cette époque, le sort des veuves était particulièrement précaire. Masures, mansardes, hôpitaux, asiles étaient peuplés de ces pauvres vieilles, oubliées de tous, occasion de charité pour les pensionnats de demoiselles. Comme chaque année, le gendre de Jeanne Baptistine allait garder le bétail une partie de l'année sur les hautes terres de Saint-Enac. Il résidait alors dans une petite cabane au lieu dit Travesselle. Cette petite habitation jouissait d'un confort plus que rustique. Le soir, il avait pour coutume d'aller veiller dans une cabane voisine, emportant avec lui une souche de hêtre et quelques outils lui permettant de confectionner une paire de sabots. À son retour de cette veillée, ce fut l'horreur. Une fumée aux senteurs âcres l'empêchait de respirer. Des flammes imposantes embrasaient la cabane et la grange. À l'intérieur, ses deux vaches et son âne étaient carbonisés. Il ne restait plus que quatre squelettes d'animaux dressés dans une attitude pathétique sur les râteliers. Ce fut le drame, le désespoir de la famille. Comment reconstituer ce maigre cheptel sans recourir au taux rédhibitoire des usuriers? Après de longues discussions, Jeanne décida de prendre en charge la famille afin que sa fille puisse s'embaucher en tant que nourrice à Paris. Alors que l'âge alourdissait sa démarche et rendait ses gestes pénibles, elle affronta avec courage l'ensemble des responsabilités familiales. Mais ces épreuves n'étaient pas finies. La guerre de 14-18 plus tard, l'occupation allemande, les restrictions allaient encore alourdir ses responsabilités. Lorsqu'elle s'éteint, presque centenaire, en 1943, le monde commençait à changer. L'exode rural, l'irruption du progrès technique allait plonger dans l'oubli l'épopée de ces femmes hardies qui savaient prendre à bras le corps les défis de l'existence. Ces femmes pétries par la rudesse des temps n'hésitaient pas à quitter leur foyer, à retrousser leurs manches, conscientes de